présent avec Judith Butler. De toutes celles et ceux, écrivaines, philosophes, biologistes, architectes venus des États-Unis, dont il a été et sera question dans cette série d'Avoir raison avec, tout cet été sur France Culture, Judith Butler est la seule encore vivante, la seule dont on ne peut donc à ne pas avoir fini d'écrire, de s'engager et peut-être même d'évoluer. Après avoir posé lundi les fondements philosophiques de la pensée de Judith Butler, nous avons entamé hier l'évocation de Troubles dans le genre, l'essai qu'il a révélé comme une figure majeure de la philosophie au tournant des années 90, il a été question déjà des concepts clés de désir, de reconnaissance, de performativité, autour desquels s'articulent les études de genre selon Judith Butler. On a vu comment son approche théorique s'est ancrée dans son expérience de femme juive, américaine, lesbienne, née en 1956, ayant étudié à Yale et à Heidelberg en Allemagne, à la fois la phénoménologie et la pensée critique, mais aussi les penseurs français qu'on a regroupés outre-Atlantique sous le nom de French Theory. Hier, Sam Boursier rappelait à quel point le contexte de publication de Gender Trouble en 1990 était fondamental et avait provoqué un événement dans le champ des études féministes et des recherches gays et lesbiennes, celui de Troubles dans le genre en 2005 l'est tout autant. Il a en effet fallu attendre 15 ans pour avoir l'essai traduit par Cynthia Cross et publié aux éditions La Découverte. Il existait alors déjà dans 16 langues en plus de l'anglais. La France est alors agitée depuis plusieurs années par les débats sur les questions de genre et d'identité. Le Pax, par exemple, avait révélé des oppositions d'une violence rare. Troubles dans le genre vient jeter un éclairage nouveau sur ce qu'on pourrait appeler avec notre invité du jour la démocratie sexuelle, dont l'actualité reste très vive en France et partout dans le monde. Troubles dans le genre, un accueil difficile, c'est le thème de ce troisième volet de notre série Avoir raison avec Judith Butler.
Judith Butler, au nom de la ministre de la Culture et de la Communication, je vous fais chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres.
Merci. Je suis très honorée d'être ici, de recevoir cette déclaration décernée par le ministère français de la Culture et de la Communication. Je me demande quelle est la meilleure manière de me faire à l'idée d'être faite chevalier ou d'être chevalier. Mes amis ont laissé entendre que je pourrais devenir un chevalier du genre. Si l'insigne qui m'est décerné aujourd'hui décœure une personne, j'estime qu'il eux qu'on pense avant tout en travail. Et lorsque l'on parle du travail ou de mon travail, on songe également à un champ, plusieurs travaux, on pense à plusieurs nombres de textes qui agissent les uns sur les autres et forment un champ, parfois même une discipline. Une idée théorique n'émerge pas de l'intérieur, on la découvre dans son paysage qu'elle fait déjà partie du monde. Or, malgré tout, pour le meilleur et pour le pire, mon nom est associé à un certain trouble provoqué par les études de genre en France du moins. Il m'est donc agréable de voir que mes hôtes ce soir ne se préoccupent pas outre mesure de ce trouble, ou peut-être cherchent-ils à souligner le mérite dans certains types de troubles. C'est avec plaisir et reconnaissance que je vous remercie sincèrement de cet honneur. Merci encore.
Voilà une des rares archives de Judith Butler en français recevant les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Éric Fassin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris 8 Saint-Denis-Vincennes, auteur notamment de Sexe, politique, genre et sexualité au miroir transatlantique, c'était aux éditions de l'HESS en 2009. Hommes, femmes, quelle différence, la théorie du genre en débat avec Véronique Magron, c'était aux éditions Salvator en 2011. Voilà au moins pour deux ouvrages directement liés à notre sujet du jour. Et vous signez également la préface à l'édition française de Troubles dans le genre, ce livre donc important dont il a déjà été question évidemment depuis le début de la semaine de Judith Butler. Pour commencer, question rituelle, Éric Fassin, je vais vous demander à vous aussi, dans quelles circonstances vous étiez entré en contact avec Judith Butler, avec ses travaux, et qu'est-ce que ça a pu produire chez vous ?
J'ai enseigné aux États-Unis de 1987 à 1994 et donc à ce moment-là, je découvrais tout un champ d'études, les études de genre et de sexualité. Et lorsque je suis rentré en France en 1994, j'ai commencé un séminaire qui, sous des titres différents, s'est poursuivi jusqu'en 2012 sur ce qu'on peut appeler les différends sexuels, les conflits autour du genre et de la sexualité, en m'appuyant d'abord sur ce qui se passait aux États-Unis. Et de ce point de vue, la référence à Judith Butler s'est très vite révélée essentielle parce que elle permettait d'éviter les termes dans lesquels était posé le débat en France. On nous disait il faut être républicain puisqu'on est français, autrement dit universaliste, ne pas parler de toutes ces questions minoritaires. Et si on voulait remettre cela en cause, on était condamné à être considéré comme multiculturaliste à l'américaine, c'est-à-dire croire à la politique des identités. L'intérêt pour moi, à cette époque, du travail de Judith Butler, c'est qu'il remettait radicalement en cause ce partage, puisqu'on n'est ni dans la logique universaliste républicaine, ni dans la logique communautariste, multiculturaliste, fondée sur la politique des identités. C'est une logique minoritaire qui, à partir des marges, interroge la norme.
Oui, on a entendu une archive lundi, c'était de Judith Butler, expliquant justement que trouble dans le genre tient son origine finalement d'un énervement, d'un agacement face à ces politiques identitaires américaines évidemment, et donc il y a cet effet de miroir en France dont on va beaucoup parler aujourd'hui, Éric Fassin, mais avant cela il faut quand même raconter l'histoire de la traduction de troubles dans le genre, gender trouble, puisque vous le dites, hein, vous allez enseigner aux États-Unis dans les années 90, c'est là que vous découvrez un petit peu tout ce champ des études de genre qui existe là-bas depuis les années 60, hein, c'est pas du tout, il faut le redire à ce micro, Judith Butler qui a inventé les questions de genre, c'est la précède de plusieurs décennies, enfin de moins de deux décennies, mais elle en est évidemment une icône aujourd'hui, et pourtant le livre est écrit en 1990, publié en 1990 aux États-Unis, ne sortira qu'en 2005 en France. Qu'est-ce qui explique ce délai?
Alors, il y avait une résistance qui était fondée d'abord sur un anti-américanisme intellectuel qui a joué un rôle essentiel dans le refus, non seulement du genre, mais plus généralement des politiques minoritaires. C'est-à-dire qu'il s'agisse de la race ou du genre, c'est la même logique de refus de tout ce qui est censé venir des États-Unis, donc d'une américanisation au nom d'une tradition française. Et en particulier, on voit se développer dans les années 1990 en France tout un discours sur la singularité française, voire sur l'exception française. Par exemple, ça va être tenu par des gens comme Mona Ozouf ou Elisabeth Badinter, qui insistent sur le fait que la guerre des sexes, c'est pour les États-Unis, mais qu'en France, on a l'harmonie entre les sexes. Donc un refus qui n'est pas simplement celui du genre, ou d'ailleurs pas simplement celui de la race, mais qui est un refus de toute politisation des questions minoritaires. On pouvait donc penser que ce refus, qui se traduisait par une absence de traduction, pas seulement de Judith Butler, mais de beaucoup d'autres auteurs, eh bien, il était en quelque sorte constitutif de la culture française. Mais à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi ça a bougé dans les années 2000. Et dans les années 2000, on voit par exemple en 2005 qu'il n'y a pas seulement le livre de Judith Butler, Trouble dans le genre, mais il y a aussi un livre de Catherine MacKinnon, le féminisme unmodified, c'est-à-dire un ouvrage qui est un peu aux antipodes de ce que raconte Judith Butler. Autrement dit, on voit dans les années 2000 surgir tout un ensemble de publications qui viennent démentir l'idée que la culture française serait irrémédiablement fermée sur ces questions. C'est la raison pour laquelle il a été possible de convaincre l'éditeur, La Découverte, de traduire ce livre qui posait problème pour beaucoup parce que, premièrement, il apparaissait trop américain, deuxièmement, il apparaissait trop français aussi, puisqu'il parlait de Monique Wittig et d'auteurs ou d'autrices qu'on ne lisait pas ou plus.
Ou qu'on ne lisait pas ensemble, hein. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la French Theory, qui est ce corpus d'auteurs, d'intellectuels français, on cite souvent Michel Foucault également, Deleuze et d'autres, donc Monique Wittig, Simone de Beauvoir, Jacques Lacan, bref, ce sont des auteurs qui ne sont pas mis ensemble, qu'on ne lit pas ensemble d'habitude en France, et c'est ça qui est la French Theory. C'est pour ça qu'on garde d'ailleurs le terme en anglais, en règle générale, qu'on ne parle pas de théorie française.
C'est vrai, j'y ajouterai toutefois le fait que nous étions dans un moment intellectuel, dans les années 90, qui a été inauguré par un essai polémique de Luc Ferry et Alain Renaud sur la pensée 68, qui était une liquidation de toute cette pensée. C'est-à-dire l'idée que tout cela, ça appartenait au passé. Donc soit c'était ailleurs, l'Amérique, comme on disait, soit c'était notre passé, mais pas notre présent. Nous avions dépassé tout cela. Or, il va y avoir un retour en force, et en particulier dans un contexte qui est celui de la politisation des questions sexuelles en France, où on s'aperçoit que, par exemple, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le PACS, eh bien, ça n'entre pas bien dans des discussions pour savoir si c'est universaliste ou si c'est multiculturaliste, puisqu'en réalité, ce sont des revendications minoritaires, et la preuve que ça n'est pas simplement de la normalisation, c'est que ça ébranle beaucoup, que beaucoup s'inquiètent, et qu'en France, on essaie de défendre très souvent un ordre symbolique qui n'a plus rien à voir avec la culture française, qui serait en quelque sorte une logique anthropologique dépassant toute spécificité nationale.
Alors, les raisons que vous évoquez, Eric Fassin, Judith Butler, qui n'est pas traduite ou tardivement parce que trop américaine ou parce que trop française, ce sont évidemment pas les raisons qui étaient mises en avant par les éditeurs ou ceux qui auraient pu la traduire. On a plus entendu la question, alors évidemment de dire ça n'intéresse pas, ça rejoint peut-être ce que vous disiez sur trop américain, mais aussi la complexité de son écriture, la complexité de traduire Gender Trouble. Comment est-ce que vous recevez cette critique?
Alors, la première chose, c'est que à l'époque, je m'étais beaucoup battu pour que le titre lui-même soit traduit. C'est-à-dire qu'on ne garde pas le titre en anglais, qui serait difficile à prononcer, Gender Trouble, et difficile à s'approprier, mais qu'en le traduisant, maladroitement peut-être, mais par le trouble dans le genre, eh bien on insiste sur le fait que ça ne parle pas d'ailleurs, ça parle aussi d'ici. La deuxième chose, c'est que cette difficulté de lecture, que je comprends bien, puisque moi-même j'ai longtemps été, et je le reste, intimidé par l'ampleur philosophique du propos, alors que je n'ai pas cette compétence, cette difficulté, j'ai été très frappé de voir qu'elle était contournée par beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément une formation philosophique, voire qui n'étaient pas du tout dans le monde universitaire, mais qui pouvaient se servir de cette œuvre. Pourquoi ? Eh bien parce que il n'y a pas besoin de comprendre dans le détail tous les arguments techniques et philosophiques, il faut savoir de quoi ça parle. Et en fait, ça a parlé à beaucoup de gens. Et ça a parlé à beaucoup de gens parce que l'idée qu'il y a du trouble dans le genre, eh bien, c'est une préoccupation qui, aujourd'hui, concerne énormément de gens. Premièrement, bien sûr, les personnes qui sont exclues de la norme, qui sont reléguées dans les marges, mais aussi, en un sens, un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir des marges, justement, ce trouble dans la norme, eh bien, il se joue pour tout le monde.
Alors là, il faut vraiment insister sur ce lien entre théorie et politique, en quelque sorte, dans l'œuvre de Judith Butler. Ça a été dit déjà et répété à plusieurs reprises depuis le début de la semaine. C'est vrai que c'est une œuvre, c'est un travail intellectuel et théorique, mais qui s'ancre dans un corps et dans un vécu et dans une histoire. Et donc, je voudrais que vous nous disiez un petit peu plus, Éric Fassin, vous en disiez un petit peu plus sur ce que vous appelez, vous, la démocratie sexuelle, sur ce qu'on peut appeler les politiques sexuelles. Qu'est-ce que vous entendez, en quelque sorte, quand vous dites, bah voilà, au début des années 2000, vers 2005, on est prêt à lire et à traduire Judith Butler parce que ces questions de démocratie sexuelle, de politique sexuelle, sont devenues des vraies questions dont s'emparent les citoyens, même ceux qui ne sont pas philosophes, sociologues ou intéressés, versés dans ces questions d'études de genre.
Je crois que dans les années 90, on nous a dit non seulement que les questions de genre étaient étrangères à la culture française, mais aussi finalement qu'elle n'était pas très importante, qu'elle relevait de la vie privée et non pas de la politique au sens noble. Il fallait séparer, nous disait-on, la vie privée de la vie publique et donc laisser le personnel en dehors de la politique et la politique en dehors du personnel. Il est très clair aujourd'hui, et tout le monde le voit bien en France, qu'on n'est plus dans ce monde-là. Les choses ont changé, que ce soit dans le sens d'une présence de la politique dans la vie intime ou que ce soit d'une présence de la vie personnelle dans la vie politique. Les choses ont changé. Pour ma part, j'utilise ce concept de démocratie sexuelle pour essayer de penser le fait que nous vivons dans des sociétés qui revendiquent de définir elles-mêmes l'ordre dans lequel elles s'organisent, c'est-à-dire les règles, les lois, mais aussi les normes. Et ce qui me paraît frappant, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler de démocratie sexuelle en ce sens qu'il y a une extension de cette logique démocratique aux questions sexuelles. Et pourquoi ? Parce que, historiquement, la démocratie, elle est fondée sur le fait de laisser hors jeu les questions privées ou réputées telles, de laisser hors jeu l'intimité. Et ce partage, eh bien, il fonctionne de moins en moins bien. Il a toujours déjà été remis en cause, mais il est très clair que nous ne sommes plus dans une démocratie au sens libéral, mais dans une démocratie au sens radical, où tout peut être politisé. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, je crois, et c'est la raison pour laquelle l'œuvre de Judith Butler, elle est inscrite aussi dans un moment historique. Et c'est la raison pour laquelle elle résonne pas simplement aux États-Unis, pas simplement un peu partout dans le monde, mais aussi en France, parce que nous sommes dans le même monde, et ce monde, c'est un monde où on négocie, on se dispute, on se bat pour définir l'ordre sexuel, pour définir ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, ce que c'est que le mariage, ce que c'est que la famille, quels sont les types de liens qui sont dignes d'être reconnus, quelles sont les personnes qui sont dignes d'être reconnues. Voilà, c'est tout cela qui se joue aujourd'hui.
Oui, le désir et la reconnaissance, évidemment, qui sont au cœur du travail de Judith Butler et qui continue, elle aussi, de travailler, je le répète, à chaque début d'émission, et c'est à dessein. Trouble dans le genre a été complété par Défaire le genre quelques années plus tard, et Judith Butler elle-même dit qu'elle continue d'affiner, évidemment, son travail sur la question, mais vous avez prononcé les mots importants, ceux de loi et de normes, de normativité, Éric Fassin, et il faut dire que tout le travail de Trouble dans le genre, c'est justement d'interroger cette relation de pouvoir qui se crée autour, et c'est en ça que c'est très politique, autour de la question de l'établissement des normes sexuelles, qui sont à la fois une façon de contraindre, d'établir un pouvoir, mais aussi une façon pour les sujets, les individus, de se construire en tant que sujet. Il y a ce double mouvement, Éric Fassin.
Tout à fait, le genre, c'est ce qui structure non seulement la société, mais aussi les individus. C'est un ordre hiérarchique, qui s'articule à la sexualité, et c'est une des spécificités du travail de Judith Butler, qu'elle conjugue un travail sur le genre et un travail sur la sexualité, sans pour autant réduire l'un à l'autre. Donc, je crois que ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'autour de 2005, c'est-à-dire autour de la traduction française tardive de Troubles dans le genre, alors que beaucoup de gens croyaient que ces questions n'était pas si importante, pas si intéressante, finalement un peu dépassée, ou en tout cas étrangère, on voit tout de suite qu'il y a un retentissement considérable de ce livre. Mais aussi, on comprend à ce moment-là qu'il y a des gens qui prennent très au sérieux ce que raconte Judith Butler, et ce sont des théologiens au Vatican qui, depuis 1995, ont découvert à la conférence de Pékin sur les femmes que le genre, ça avait un potentiel subversif. Pourquoi ? Parce que ça bouscule l'ordre supposé naturel des choses. Si les places des femmes et des hommes ne sont pas fixées une fois pour toutes, eh bien ça veut dire qu'elles sont négociables politiquement, c'est donc ce que j'appelle la démocratie sexuelle. Le Vatican ne va pas se tromper là-dessus, il va y accorder beaucoup d'importance. Et en particulier, est publié en 2003 en italien et en 2005 en français, c'est-à-dire la même année que Troubles dans le genre, un lexique des termes ambigus et controversés sur la vie, la famille et les questions d'éthique. Et là, on voit que Judith Butler est tout à fait centrale, que la lettre du cardinal Ratzinger, qui devient en 2005 aussi pape sous le nom de Benoît XVI, eh bien, c'est une lettre sur la collaboration de l'homme et de la femme dans l'Église et dans le monde, qui vise en particulier le danger que représente le genre, c'est-à-dire l'effacement de la différence des sexes incarnée par Judith Butler.
But the problem with this distinction between sex and gender became clear to many of us.
Le problème, en fait, de cette distinction est devenu clair pour beaucoup d'entre nous. Le fait est que le sexe n'est pas un fait pur, mais en même temps, ce n'est pas non plus une pure construction culturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de le confondre, c'est-à-dire de supprimer, de dissoudre la distinction sexe et genre et de confondre le sexe dans le genre. Il y a deux erreurs là qui sont en cause. D'une part, une erreur qui relèverait du positivisme, où on pense que on peut connaître le corps et le sexe du corps, et une autre erreur qui relève d'un idéalisme culturel où on réduirait le corps à un pur affect. Il me semble qu'aucune de ces deux positions ne fonctionne. Il y a toujours une négociation à assumer, à pratiquer entre une matérialité du corps non connaissable comme positivisme et puis les affects, les dimensions affectives et culturelles.
De soir, je dis en bas.
Vous écoutez France Culture, il est midi 20, c'est Avoir raison avec Judith Butler. On parle toute cette semaine de l'œuvre de l'auteur, l'autrice de Troubles dans le genre. Et aujourd'hui, notre invité, le sociologue Éric Fassin, qui a signé la préface de la version, de la traduction française de ce livre. Et vous disiez, Éric Fassin, avant d'entendre justement Judith Butler confirmer ce que vous étiez en train de nous dire sur la confusion entre genre et sexualité, voilà comment il fallait trouver une troisième voie et ce qui est quelque chose d'assez compliqué à comprendre et qui est peut-être à l'origine, outre les positions politiques des uns et des autres, des certains nombres de confusions sur son travail. On l'entendait faire cette distinction et je pense qu'il faut y revenir. Parce que la question de la sexualité, et c'est ce que fait Judith Butler, c'est placer la question de la sexualité au cœur du projet féministe, mais d'une façon différente, par exemple, de Catherine MacKinnon dont vous parliez tout à l'heure.
Bien pour Catherine MacKinnon, effectivement, genre, sexe, sexualité, tout ça c'est la même chose, puisque au fond, la sexualité est l'instrument privilégié de la domination masculine. C'est à travers le viol, à travers la pornographie, à travers le harcèlement sexuel, qu'un ordre du genre est instauré. Je crois que dans le cas de Judith Butler, il y a une différence importante, non pas bien sûr qu'elle efface ce poids de l'hétéronormativité, mais aussi de toutes les formes de normativité sexuelle, bien au contraire, c'est au cœur de son propos, mais elle insiste aussi sur le fait qu'il y a une marge, qu'il y a la possibilité d'un jeu à l'intérieur de ces contraintes.
Il n'y a pas une détermination, un déterministe, il y a la possibilité d'une forme d'agentivité. Le terme est assez moche, mais c'est comme ça qu'on traduit traditionnellement agency, qui est un concept là aussi qui nous vient des États-Unis.
Alors effectivement, il y a une volonté de penser pas simplement l'imposition des normes, pas simplement la libération à l'inverse, mais aussi cette agentivité ou puissance d'agir ou capacité d'agir, tous les termes peuvent rendre compte de cette agency, mais en tout cas la possibilité à l'intérieur de cette scène de contrainte de jouer sa partition, c'est-à-dire de ne pas être simplement soumise à l'ordre du genre. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est une raison pour laquelle l'œuvre de Judith Butler est politiquement importante, c'est que elle ne nous dit pas seulement la domination, elle nous dit aussi la capacité d'agir.
Et dans un texte récent, Éric Fassin, vous montrez qu'il y a aujourd'hui une forme de convergence étrange, et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, et qui s'articule justement autour de la dénonciation de cette fameuse théorie du genre, avec tous les guillemets qu'il faut. D'ailleurs, il faudra que vous nous disiez si vous utilisez l'expression théorie du genre, mais d'abord cette convergence entre une forme de néoconservatisme et une forme de néolibéralisme. C'est-à-dire que la question de l'identité sexuelle, a été le lieu de cette convergence, de cette rencontre de deux mouvements, un mouvement qu'on pourrait dire populiste d'un côté, un mouvement néolibéral de l'autre. D'abord, est-ce que vous pourriez élaborer un peu, développer un peu sur cette idée et qu'est-ce que ça signifie selon vous, Éric Fassin ?
Alors, ce qui est frappant, c'est que ce que je viens de décrire jusqu'à présent, c'est d'une part une résistance française et d'autre part une résistance catholique. Or, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des résistances qui sont multiples. Et en particulier, on l'a bien vu en France. Certes, on a eu, dans les années 2010, la mobilisation contre la supposée théorie du genre. Mais en même temps, ça n'était pas simplement des catholiques, puisque ça a été repris par la droite, plus généralement. Et on a vu se développer, dans les années 2010, un peu partout, et en particulier en Europe et en Amérique latine, des mouvements anti-genre, dans des contextes qui ne sont pas forcément catholiques, qui peuvent être avec des évangéliques, comme au Brésil, mais qui peuvent être aussi dans un contexte néolibéral, toujours comme au Brésil, c'est-à-dire que Bolsonaro, eh bien, fait la jonction entre ces deux logiques. Je crois qu'il est important de penser cela au moment où parfois on s'inquiète, et à juste titre, d'un risque de banalisation, de normalisation du genre. Très clairement, il y a beaucoup de gens dans le monde, de la Russie à la Roumanie jusqu'au Brésil et aux États-Unis, la Hongrie, etc., dans beaucoup de pays, en Europe et en Amérique latine en particulier, mais aussi aux États-Unis, on s'aperçoit que les mobilisations anti-genre sont très fortes. On voit par exemple, en 2017, au Brésil, à São Paulo, Judith Butler brûlée en effigie, dans des manifestations qui sont en quelque sorte annonciatrices des développements autour de Bolsonaro. Donc je crois que on a intérêt à prendre ça au sérieux, c'est-à-dire, manifestement, la droite et l'extrême droite prennent au sérieux le concept de genre. Alors, je ne parle pas de théorie du genre, ou plus exactement, j'en parle au pluriel, puisque je rappelais que Catherine MacKinnon ne dit pas du tout la même chose que Judith Butler. Elles n'ont pas la même théorie du genre. Il y a des théories du genre dans le champ des études de genre. Mais j'ajouterais qu'il y a des théories du genre, y compris en dehors des études de genre. Il y a une théorie du genre du Vatican. Lorsque, par exemple, on voit la Manif pour tous brandir des pancartes avec marqué « pas d'ovule dans les testicules », eh bien ça veut dire « c'est la biologie qui est la vérité du genre ». Mais en même temps, on va voir aussi « pas touche à nos stéréotypes de genre ». Et ça veut dire quoi? Ça veut bien dire qu'il y a des stéréotypes de genre et qu'il est important de conforter cet ordre naturel par des institutions. Et c'est ce qui fait que les évêques en France vont parler de l'institution naturelle du mariage. Ce qui est un paradoxe, voire un oxymore.
Vous avez fondé, Éric Fassin, une internationale du genre. Quelle est la clé, selon vous, de l'internationale des anti-genres? Qu'est-ce qui rassemble ces gouvernements? Est-ce que c'est une forme d'anti-intellectualisme, d'anti-élitisme qui rapproche ces questions? C'est-à-dire, se soucier de la question de l'identité de genre, ce serait réservé aux bobos, voilà, pour le dire tout simplement.
Alors, je crois que cette entreprise collective, puisqu'il s'agit d'un réseau, que j'avais proposé, mais à laquelle participe en particulier Judith Butler, mais aussi au Brésil, quelqu'un comme Sonia Correa, ou bien en Belgique, quelqu'un comme David Paternotte, etc. Dans beaucoup de pays, des gens participent.
Vous avez Zeynep Gambetti qui sera notre invité vendredi.
Tout à fait. Il y a des gens un peu partout qui se sont rendus compte que dans des contextes différents, eh bien, ces mobilisations anti-genre, elles étaient en quelque sorte le fer de lance d'un néoconservatisme néolibéral qui est aussi très souvent avec un fondement religieux, c'est-à-dire la conjonction d'une logique morale et d'une logique économique. Donc cette bataille, elle a lieu aujourd'hui et il est important de se mobiliser. Il y a des recherches qui sont menées. On a par exemple le livre qui a été publié sur la croisade anti-genre par Sarah Garbagnoli et Massimo Prearo, qui est plutôt sur l'axe religieux, mais on a aussi le volume collectif dirigé par David Paternotte et Romain Couard, qui est sur les campagnes anti-genre en Europe. On a les travaux de Sonia Correa sur l'Amérique latine. Bref, tout un ensemble de travaux qui mettent l'accent sur le fait que aujourd'hui c'est un mouvement international et que face à l'internationalisation de cet usage anti-genre à des fins réactionnaires qui sont aussi souvent racistes, eh bien il est très important de mobiliser les études de genre pour comprendre ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, le nom de Judith Butler a toujours fonctionné comme une sorte d'emblème, d'icône. Elle était la papesse du genre pour le pape. Eh bien, elle reste une référence essentielle pour essayer de résister à cette vague de campagne, de mobilisation, de croisade anti-genre.
Merci beaucoup Éric Fassin d'avoir été avec nous pour cette troisième émission consacrée à Judith Butler. Merci à Vanessa Nadjar qui était aujourd'hui à la réalisation, à la prise de son Nasser Moussaoui. Demain, on parlera plus précisément du féminisme et des rapports compliqués entre Judith Butler et les féministes, puisque c'est ces féministes qu'elle appelle un petit peu à être secouées dans ce livre Trouble dans le genre. Et on sera avec la philosophe Elsa Dorlin.